Chaque année, des milliers de visiteurs passent devant eux sans forcément s'arrêter. Des noms, des dates, des mots griffés dans la pierre des cachots. Autant de vie réduite à quelques centimètres carrés de tuffeau. Mais derrière chaque graffiti, il y a une histoire, une vraie, avec des archives, des témoins, des procès, des fuites et des condamnations. Bienvenue dans notre série de podcasts « Mémoire derrière les murs ». Cette série, c'est un travail d'enquête. Remonter le fil à partir d'une trace, croiser les sources, reconstituer un destin. Un nom sur un mur suffit à rouvrir un dossier vieux de plus d'un siècle. Nous l'avons fait. Et ce que nous avons trouvé dépasse tout ce qu'on aurait pu imaginer. Imaginez une porte qui se referme. Pas de procès, pas de date de sortie. Juste un ordre du roi et le bruit du verrou. Au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, la prison n'est pas encore une peine. On y enferme pour attendre, pour faire pression, pour faire taire. Et quand le pouvoir royal s'affirme, que fait-il? Il se dote de ses propres prisons, les prisons royales. À Loche, cette prison s'installe au cœur même de la forteresse. Pourquoi là? Parce que le principe d'une forteresse est simple. On a du mal à y rentrer, mais une fois à l'intérieur, s'en échapper est tout aussi difficile. Un lieu stratégique, visible, symbolique. Ici, on enferme au nom du roi, grâce aux fameuses lettres de cachet. Mais attention, la prison royale n'est pas ce qu'on imagine. C'est une résidence surveillée. Et certains détenus? Ils bénéficient d'un traitement particulier, notamment en raison de leur statut. Alors, qui enferme-t-on à Loche? Des nobles, des officiers, des prisonniers politiques, ou simplement des personnes dont on ne sait que faire. Le premier prisonnier. 1458. Le duc Jean II d'Alençon devient le premier prisonnier enfermé ici, par ordre royal. Charles VII utilise ses propres appartements, ceux de la Tour Neuve, pour y installer le duc. C'est le début. La forteresse devient prison. Mais qui est cet homme? Jean II d'Alençon, cousin germain du roi Charles VII, ancien compagnon de Jeanne d'Arc, parrain du dauphin Louis, le futur Louis XI, rien que ça. Accusé de trahison, il est condamné à mort. Tous ses biens, confisqués. Mais sa peine est commuée. Emprisonnement à perpétuité au donjon de Loche. Un duc reste un duc, même en prison. Il a le droit à certains aménagements. Deux valets à son service, logés dans la chambre voisine, mais aussi six gardes, jour et nuit. Jean d'Alençon est privé de tout contact extérieur. Pas de lettres, ni envoyées, ni reçues. Pas d'argent non plus. Pourquoi? Pour éviter toute tentative de corruption. 1461. Louis XI arrive au pouvoir. Que fait-il? Il libère son parrain. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Jean d'Alençon récidive. Retour en prison en 1474, au Louvre cette fois. Il en sort en 1476 et meurt peu de temps après. Les cages de Louis XI. Pendant son règne, Louis XI fait construire deux cages, des cages de bois et de fer installées au donjon de Loche. Vous imaginez des cages minuscules suspendues dans le vide? Oubliez ces clichés. Ces cages étaient suffisamment grandes pour qu'un homme puisse s'y tenir debout. Et non, elles n'ont jamais été suspendues. À quoi servaient-elles alors? Uniquement pour les détenus qui pouvaient poser problème. Et seulement la nuit. Vous pouvez voir une reconstitution d'une de ces cages au donjon aujourd'hui. La dernière originale, détruite lors de la Révolution française. Un mécène de la Renaissance. Les rois se succèdent. Et à Loche. Loche ne perd pas en autorité. la prison continue de recevoir de nouveaux prisonniers. Quelques décennies après le duc d'Alençon, c'est au tour de Louis XII d'enfermer quelqu'un. Un personnage politique majeur du XVIe siècle, Ludovico Sforza, duc de Milan. Vous connaissez peut-être déjà son nom, figure emblématique de la Renaissance italienne et premier mécène de Léonard de Vinci. Rien de moins. Il fut l'un des princes les plus puissants d'Italie. Mécène brillant, il fit de Milan une cour éblouissante, s'attacha les services, nous l'avons vu, de Léonard de Vinci, et il régna sur la Lombardie avec l'assurance des grands de ce monde. Que reste-t-il aujourd'hui du passage à l'oche de Ludovico Sforza? Plusieurs choses. Des graffitis qui peuvent lui être attribués et qui sont situés dans la partie effondrée de la Tour Neuve, et surtout un cachot, situé dans la Tour du Martelet. Ce cachot présente sur un des murs des peintures réalisées avec des ocres jaunes, rouges et bleus. Un homme au centre, des lettres sur les côtés, il y est écrit « Celui qui n'est pas content ». Ludovico Sforza passe donc les quatre dernières années de sa vie à l'oche. Une vie faite de semi-liberté. Ne l'oubliez pas, nous sommes dans une prison royale. Il dispose de mobilier, il peut écrire, peut sortir chasser et même aller prier à la collégiale Saint-Ours. C'est d'ailleurs dans cette même église qu'il sera inhumé en 1508. Nous en avons désormais la certitude grâce à deux campagnes de fouilles réalisées par nos collègues archéologues du département d'Indre-et-Loire. Les protestants au XVIIe siècle. La prison royale accueille un grand nombre de protestants au XVIIe siècle. Parmi eux, Pierre Chaillet, originaire de la Tremblade, médecin et protestant. Mai 1687, il reçoit un ordre de relégation à Angers. Cet ordre ne sera jamais exécuté. Mais voilà, Pierre Chaillet est accusé de profiter de ses visites aux malades pour jouer les prédicants. Mars 1693, une lettre de cachet le conduit à l'oche. On conserve de lui plusieurs suppliques. Que demande-t-il? Un adoucissement, ou plutôt la liberté. Que dit-il pour être délivré? Sa femme vient de mourir, trois jeunes enfants sont privés d'appui. Il propose même d'aller écouter les messes de l'abbé de Cordemois. Ironie du sort, c'est cet abbé qui l'a dénoncé et envoyé en prison. Le gouverneur de Touraine vient le voir en prison. Il rend compte de la situation de Chaillet à Versailles. Pierre Chaillet réussit à sortir de l'oche, probablement en 1694. Il gagne l'Angleterre, puis l'Amérique, où il s'établit. Une nouvelle vie, loin de l'oche. Julie de Castelnau. Nous sommes à la fin du XVIIe siècle. Julie est aristocrate, mariée, bien née, mais surtout écrivaine, conteuse, habituée des salons littéraires parisiens. Elle écrit des contes de fées à une époque où ce n'est pas vraiment ce qu'on attend d'une femme, encore moins d'une femme qui pense par elle-même. Elle aime librement, Julie. Elle choque, elle dérange. Ses relations avec d'autres femmes, son indépendance d'esprit, son refus des bonnes mœurs bien rangées. Tout cela finit par agacer très sérieusement le pouvoir royal et son mari. Résultat, en 1702, à 34 ans, elle est arrêtée et envoyée au château de l'Oche. Officiellement, on parle de dépravation des mœurs. En réalité, Julie est surtout coupable d'être trop libre dans une société qui ne pardonne pas ce genre d'audace, surtout quand elle vient d'une femme. À l'oche, elle n'est pas enfermée dans un cachot humide, comme on peut l'imaginer. Son emprisonnement ressemble davantage à un exil surveillé. Elle circule dans l'enceinte du château, échange avec la société locale, et surtout, elle continue d'écrire. En 1706, Julie tente une évasion spectaculaire, déguisée en homme. Oui, en homme. L'évasion échoue, évidemment, sinon l'histoire serait encore plus romanesque, et elle est transférée dans une autre prison avant de revenir à Loche. Entre 1708 et 1709, elle tient un journal, une correspondance précieuse dans laquelle elle raconte son quotidien, ses pensées, ses frustrations, mais aussi son humour et sa lucidité. C'est un témoignage rare, intime, sur la vie d'une femme enfermée parce qu'elle refusait de rentrer dans le moule. En 1709, elle obtient enfin une semi-liberté. Elle quitte Loche, mais reste surveillée. Ce n'est qu'après la mort de Louis XIV, en 1715, qu'elle est pleinement libérée. Malheureusement, Julie de Castelnau meurt en 1716, à seulement 46 ans. Mais ses contes, eux, ont traversé les siècles. Aujourd'hui, elle est reconnue comme une figure singulière de la littérature française. Une femme qui écrivait des contes merveilleux, tout en menant une vie qui, à l'époque, faisait beaucoup trop peur. Ces murs ont vu passer des siècles. Des hommes de pouvoir réduits au silence. Des femmes d'esprit réduites à l'attente. Des vies suspendues par un simple ordre royal, pliées en quatre, cachetées de cire. La prison royale de Loche n'est pas qu'un vestige de pierre, c'est un témoignage. Celui d'une époque où la liberté n'était pas un droit, mais une faveur. Où l'on pouvait disparaître du monde des vivants sans avoir commis d'autres crimes que de déranger. Pourtant, quelque chose résiste. Dans les suppliques de Pierre Chaillet, dans les contes de Julie de Castelnau, dans la mémoire de tous ceux qui ont traversé ces salles avant vous. L'histoire de cette forteresse nous rappelle que derrière chaque grand récit de pouvoir, il y a des existences singulières. Des hommes et des femmes qui ont attendu, espéré, et parfois, malgré tout, continué à vivre. C'était le premier épisode du podcast « Mémoire derrière les murs ». Je vous donne rendez-vous prochainement pour le deuxième épisode consacré à la Révolution française et à la Terreur. À très bientôt.